Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui sur France Culture, le corbeau et la baleine, raconté par Michel Pastoureau dans une émission de Mathilde Wagman, car les animaux aussi ont leur histoire.
L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde.
Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif.
Bête comme
ses pieds. Oh.
C'est toi qui es bête comme tes pieds.
Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, cette semaine, nous vous proposons de plonger au cœur du royaume animal. Michel Pastoureau, médiéviste et spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte le parcours à travers les siècles de 8 animaux célèbres et qu'il affectionne. Après le portrait du coq et de l'ours, c'est d'un volatile dont il sera question aujourd'hui. Charognard, voleur, glouton, orgueilleux, hypocrite, il est paré de toutes les tares associées à toutes les inquiétudes. Est-ce en raison de la couleur de ses plumes, noires comme le jais, qu'il rôde autour des cimetières, pille les champs ou se fasse dénonciateur anonyme, c'est en tout cas presque toujours sous les traits d'un oiseau de malheur qu'il est évoqué. Aujourd'hui, portrait du corbeau.
Seigneur, quand froid est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Dans cette interprétation par Léo Ferré du poème d'Arthur Rimbaud écrit après la défaite de 1870, on est frappé par l'atmosphère lugubre et funéraire qui accompagne le poème. La mort, c'est le premier symbole auquel on pense lorsqu'on évoque le corbeau.
Oui, c'est un attribut de la mort, c'est un attribut de la nuit, c'est un attribut de l'enfer, et ça non seulement au XIXe siècle, mais tout au long de son histoire, ou presque.
Alors, pourtant, si on remonte les siècles, si on va du côté de l'Antiquité, le corbeau est un animal plutôt valorisé dans les mythologies anciennes. On peut penser, par exemple, à la mythologie du dieu Louk. Qui est ce dieu Louk, plutôt méconnu en France ?
C'est le principal dieu du panthéon celtique. C'est un dieu qui a plusieurs attributs, mais son attribut principal, c'est tantôt le corbeau, tantôt la corneille. D'ailleurs, pour l'histoire culturelle, la corneille, c'est la femelle du corbeau. Pour l'histoire naturelle, il en va autrement. Mais je suis de ceux qui pensent que l'histoire naturelle, c'est une forme d'histoire culturelle parmi d'autres. Donc, dans l'Antiquité, et probablement plus en amont encore, le corbeau est associé à de nombreuses divinités, et peut-être lui-même aussi une divinité, non seulement en Europe, mais surtout en Sibérie et dans le nord du continent américain. On a des traditions qui font du corbeau soit le maître du monde, soit le créateur du monde, en tout cas un oiseau extrêmement valorisé, qui sait tout, qui voit tout. On trouve cela encore dans la mythologie germano-scandinave, où le grand dieu Odin, lui aussi le chef du panthéon nordique, a pour attribut, parmi d'autres, deux corbeaux, Huginn et Muginn, selon les traditions. L'un, c'est l'intelligence, l'autre, c'est la mémoire. Ce sont deux corbeaux qui perchent sur ses épaules et qui, chaque jour, parcourent le monde pour rapporter à Odin ce qu'ils ont vu. Ce sont ses conseillers. Dans la longue durée, d'ailleurs, on peut penser que le corbeau, c'est l'oiseau et même l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Il est toujours là, il est très proche, il observe. Vu par l'homme, on peut penser que c'est un des animaux qui nous connaît le mieux.
Il a un côté omniscient dans ses mythologies.
Dans ses mythologies, il est omniscient et dans les textes de nature presque zoologique ou encyclopédique de l'Antiquité, il est toujours présenté comme un animal extrêmement intelligent, qui a beaucoup de qualités. Alors, il y a aussi des légendes sur son plumage noir. Dans la mythologie grecque, il y a celle d'Apollon, dont le corbeau est un des nombreux attributs. Apollon était amoureux de la nymphe Coronis, peut-être même son plus grand amour. Il était jaloux et il a demandé au corbeau, qui avait un plumage blanc à cette époque, de surveiller la dite Coronis. Mais le corbeau l'a mal fait et la nymphe a été séduite par un mortel et le dieu est entré dans une très très grande colère et pour punir le corbeau d'avoir mal rempli sa mission, il a changé son plumage blanc en plumage noir. C'est ce que racontent Ovide et d'autres auteurs grecs et romains.
On entend en vous, Michel Pastoureau, l'historien des couleurs ici, le noir, couleur du corbeau, est-ce l'une des qualités qui font de lui un animal si déprécié au fil des siècles?
Oui, en tout cas pour les périodes historiques et spécialement pour l'Europe chrétienne, ce noir est un noir péjoratif. C'est la couleur de la mort, c'est la couleur des ténèbres, c'est la couleur du monde souterrain, c'est la couleur des enfers, c'est une couleur de mauvais augure et les animaux noirs sont des animaux dont on se méfie ou que l'on rejette. Et le corbeau qui est tout noir, c'est peur, bien sûr. D'autant qu'il y a corbeaux et corbeaux. Les nôtres, aujourd'hui, sont plutôt de petite taille, les corbeaux freux et les autres corvidés. Mais dans les sociétés anciennes, on avait affaire au grand corbeau, qui est devenu assez rare en Europe. Quelques exemples encore en pays de montagne ou dans des falaises de bord de mer. Mais le grand corbeau, c'est un animal énorme. J'en ai vu, moi, seulement dans des eaux, qui posait sur ses pattes peut atteindre 80 cm de haut, qui a une tête énorme et qui est entièrement noir, et d'un noir plus noir que noir, outre noir, dirait Soulages.
Oui, jusqu'à son bec. Hein.
Jusqu'à son bec, qui est d'un noir presque bleuté, tellement il est noir.
Si on en revient à l'Antiquité, vous avez cité Pline l'Ancien, un auteur très important et que l'on retrouvera tout au long de cette série consacrée aux animaux. Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, au premier siècle de notre ère, raconte une histoire censée s'être déroulée à l'époque de l'empereur Tibère. Elle met en scène un corbeau intelligent, doué de parole et qui salue les empereurs par leur nom. Le corbeau est tué par un habitant énervé s'être fait crotter dessus. La population, par amour pour le corbeau, met à mort ce boutiquier mais rend aussi hommage au corbeau. C'est vraiment la mise en scène d'un animal vénéré dans cette histoire. C'est un retournement par rapport à l'image qu'on a de nos jours du corbeau.
Oui, c'est une image très différente. Pline aime bien raconter des histoires et des anecdotes, notamment sur le passé de Rome et en général à la gloire de Rome. Il est très bavard sur le corbeau et très admiratif du corbeau, dont on sent qu'il fait l'oiseau le plus intelligent et peut-être l'animal le plus intelligent, qui sait tout, qui voit tout, qui s'apprivoise facilement, selon lui, qui est bavard et qui ne se mange pas. Et il nous rappelle que c'est un oiseau qui, comme beaucoup d'autres, permet de se livrer à des pratiques divinatoires. On observe dans l'Antiquité romaine le vol des corbeaux. Les devins tracent un espace dans le ciel avec un bâton et observent comment les corbeaux se comportent dans cet espace qu'ils ont délimité, qu'ils appellent un temple. Ou bien on observe les cris du corbeau. Pline nous dit qu'on peut distinguer jusqu'à, j'ai oublié le nombre, une soixantaine d'intonations différentes. Donc on en tire un certain nombre de conclusions pour deviner le futur. Comme le coq, le corbeau est un oiseau qui est lié à la divination.
Alors, comment comprendre la dévalorisation qui s'opère par la suite et à quand remonte-t-elle ?
Alors, la dévalorisation est vraiment le fait du christianisme, et avant le christianisme, du texte biblique de la Genèse. Le corbeau est le deuxième animal mentionné par la Bible après le serpent tentateur. Il y a le fameux épisode du déluge. L'arche vogue sur les eaux avec deux animaux de chaque espèce. Puis les affaires se calment. Noé lâche le corbeau pour lui demander d'aller voir si les eaux du déluge s'en sont retirées. Et le corbeau, au lieu de revenir dans l'arche, confirmer que les eaux se sont apaisées en tout cas, il se complaît à manger des charognes, il s'attarde, il ne revient pas, fureur de Noé qui, à sa place, va lâcher la colombe, donc l'oiseau noir contre l'oiseau blanc, en quelque sorte, déjà un couple de contraires, et... Cet épisode, qui donne le mauvais rôle au corbeau, va avoir une importance considérable pour dévaloriser l'animal, qui en plus est handicapé, bien sûr, par son pelage noir et par la méfiance que les traditions chrétiennes ont envers cette couleur.
Oui, pour le christianisme, par la suite, le corbeau se met à incarner le pécheur noirci par la boue de ses fautes. Hein. Là encore, on retrouve... Le rôle du noir, le noir, c'est le noir du péché.
C'est le noir du péché, c'est le noir des ténèbres de l'enfer, c'est le noir du monde souterrain et de la mort. Il y a aussi un bon noir dans les systèmes de valeurs chrétiens, le noir de la tempérance, le noir de l'humilité, le noir de l'habit monastique bénédictin, bien sûr. Mais les mauvais aspects sont quand même plus fréquemment mis en avant que les bons aspects, notamment par les pères de l'Église qui sont bavards sur les animaux et qui aiment bien souligner les aspects négatifs, à commencer par saint Augustin, qui semble avoir, à titre personnel, une méfiance ou une peur envers les animaux. Et contre le corbeau, il est particulièrement sévère.
On constate, Michel Pastoureau, au Moyen-Âge, une lutte en fait de l'Église chrétienne, malgré ces quelques valorisations, une lutte de l'Église pour casser une vénération du corbeau. C'est un mouvement qu'on a évoqué aussi pour l'ours, qui est assez commun. Et de la même manière, l'Église fait du corbeau un attribut du diable.
Oui, on retrouve dans la lutte de l'Église contre le corbeau, ce qu'on a évoqué à propos de l'ours, à savoir que, en plein Moyen-Âge chrétien, il subsiste ici ou là, dans le monde germanique et scandinave, des cultes païens envers cet oiseau, qui était un oiseau sacré aux époques primitives, et qui fait encore l'objet d'admiration. Alors ce n'est pas exactement de la même façon que pour l'ours, on ne boit pas de sang de corbeau, on ne se déguise pas en corbeau, mais on prend un nom qui évoque celui du corbeau, et c'est frappant de voir que dans l'anthroponymie et aussi dans la toponymie, le corbeau est très très présent dans le monde germanique. Et puis, on invoque cet animal protecteur sous forme de bannière, sous forme d'emblèmes divers installés au sommet d'une perche. Sur la broderie de Bayeux, par exemple, on voit que les Saxons, donc qui sont d'origine germanique, ont encore un emblème qui prend la forme d'un corbeau qu'ils conduisent au combat et sous la protection duquel ils combattent. C'est un héritage de l'époque païenne. Nous sommes à la fin du XIe siècle en terre chrétienne, mais le corbeau est encore présent, donc l'Église doit lutter contre ces pratiques qui lui semblent relever de l'idolâtrie et du paganisme. Un témoignage intéressant que j'ai trouvé, un petit peu plus précoce, nous sommes au 8e siècle et des missionnaires vont en Germanie évangéliser et constatent que les païens ont des pratiques très nombreuses de type cultuel pour honorer tel ou tel animal, notamment alimentaire. Et alors, ils écrivent au pape pour dire « Ces Germains mangent des choses épouvantables, on ne peut pas tout interdire, on ne peut pas frapper trop fort d'un coup, qu'est-ce qui est prioritaire ?» Et le pape leur répond « Surtout pas de corbeau, c'est la priorité absolue, c'est l'animal le plus païen des animaux païens. » Donc, ne pas manger de corbeau, pour différentes raisons, son plumage noir, mais surtout ses mœurs charognards. Le corbeau aime se nourrir de cadavres, et notamment de cadavres humains. Les bestiaires médiévaux racontent comment le corbeau commence par manger les yeux afin de mieux accéder à la cervelle, qui est pour lui le mets le plus délicat. Chose donc vraiment épouvantable pour les clercs. Rien que cela, ça en fait un animal totalement diabolique.
Chose tout à fait légendaire, par ailleurs. Dans la réalité, le corbeau s'adapte-t-il réellement à nos yeux ?
Non, je ne crois pas. En tout cas, les problèmes ne se posent pas de cette façon-là. Et je crois que c'est une certaine histoire positiviste qui cherche dans les traditions symboliques des explications d'ordre naturel ou proprement zoologique. Aujourd'hui, l'historien du symbole ne peut pas raisonner comme cela. L'imaginaire... c'est une réalité, ça existe, ça fait partie de la réalité. On ne peut pas étudier une société donnée sans étudier aussi ses croyances, ses superstitions, ses traditions, son imaginaire. Et donc l'imaginaire n'est pas le contraire de la réalité, c'est une réalité.
Alors dans votre livre consacré aux bestiaires du Moyen-Âge, vous citez à propos de cet imaginaire du corbeau un texte de Richard de Fournival, un auteur du XIIIe siècle. Lui ne voit pas dans le corbeau une incarnation du démon, mais une image de l'amour, toutefois une image assez perfide. Je vous lis l'extrait du texte. « Le corbeau possède une autre nature qui, plus que tout autre, ressemble à la nature de l'amour. Cette nature veut que lorsqu'il trouve un homme mort, la première chose qu'il mange de lui, ce sont les yeux. Par là, il en extrait la cervelle, et plus il y en a, plus il en prend. Ainsi, il en va de l'amour. Dès la première rencontre, l'homme est pris par les yeux, et jamais l'amour ne se serait emparé de lui si l'homme n'avait pas regardé la dame. » On a l'impression au départ, en lisant ce texte, qu'il va s'agir d'une description amicale pour le corbeau. Ce n'est pas le cas.
Oui, Richard de Fournival, un auteur du milieu du XIIIe siècle, nous a laissé un bestiaire d'amour où il associe le comportement animal et le comportement amoureux. Et alors, c'est un peu toujours pareil. Ça commence bien et ça finit toujours mal parce que Richard de Fournival souligne soit la perfidie, soit la cruauté des dames qui font semblant de répondre à la démarche amoureuse de l'homme et puis finalement n'y répondent pas ou trahissent ou se comportent d'une manière qui déçoit l'amant et le poète. C'est un auteur important qui écrit un ancien français absolument magnifique et qui est un clerc bibliophile dont la bibliothèque constitue le noyau primitif de la bibliothèque de la Sorbonne, parce qu'il a donné ses livres à quelqu'un qui les a donnés au collège de Sorbonne à Paris. C'est un personnage, pour l'universitaire que je suis, extrêmement important.
Alors Michel Pastoureau, c'est aussi au Moyen-Âge qu'apparaît un sens très usité aujourd'hui du mot corbeau, le sens de dénonciateur. D'où vient cette expression ?
Il vient du monde de la vénerie. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais l'auteur de lettres anonymes, le dénonciateur, par téléphone ou par d'autres moyens, c'est quelque chose qui remonte très haut, en fait. Il faut remonter jusqu'au cœur du Moyen-Âge et à la chasse au renard. On chasse le renard, un animal que l'on ne mange pas, ce qui prouve bien que la chasse, c'est un rituel avant d'être quête de nourriture, et quand les veneurs à cheval poursuivent le renard et qu'ils ont perdu sa trace, ils n'ont qu'à lever les yeux parce que le corbeau, ami du renard, ami entre guillemets, a tendance à suivre la chasse dans les airs. Et alors, lui sait où se trouve le renard et les veneurs lèvent les yeux, se repèrent sur le corbeau qui, malgré lui, ou peut-être le fait-il exprès, en tout cas, dénonce l'emplacement où s'est caché le renard, d'où ce sens figuré qui apparaît en moyen français dans la langue des 14e et 15e siècles. C'est un sens figuré, corbeau égale dénonciateur, et c'est un sens qui est resté et qui a connu une vogue au 19e et 20e siècle, d'abord dans la littérature, puis au cinéma.
Après le Moyen-Âge, il semble que l'Église ait réussi son coup, si je puis dire, parce que le corbeau est un animal assez déprécié. On ne peut pas, dans cette émission consacrée au corbeau, ne pas évoquer, bien sûr, la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Et le corbeau, dans cette fable, est tout à fait ridicule.
Oui, c'est une fable qui vient de loin. C'est peut-être même la plus ancienne fable connue en Europe. Elle a des origines orientales, mais on en connaît des versions grecques, des versions romaines, des versions médiévales, et à chaque fois, le corbeau a le mauvais rôle. Alors évidemment, c'est la version de La Fontaine qui est la plus connue, et c'est assez étonnant parce que tous les auteurs anciens soulignent l'intelligence du corbeau, et dans cette fable, il a un comportement stupide. Il est flatté par le renard, et vaniteux, il ouvre le bec pour parler et chanter, peut-être, et il laisse tomber le fromage. C'est en quelque sorte une soupape. L'histoire symbolique est faite comme cela, de domaines où l'on doit créer une soupape. Quand un animal est trop intelligent comme le corbeau, il faut mettre en scène quelques épisodes où il n'est pas intelligent pour que le système symbolique fonctionne bien. En outre, c'est une fable qui s'organise autour de trois couleurs, les trois couleurs les plus importantes sur le plan symbolique et les plus anciennes aussi, le blanc, le rouge, le noir. On a un oiseau noir, le corbeau, qui tient dans son bec un fromage blanc et que guette en bas un animal rouge, le renard. Donc on a une circulation entre les trois couleurs, de même que dans Blanche-Neige, par exemple, on a une jeune fille blanche comme la neige qui reçoit d'une sorcière ou d'une méchante femme vêtue de noir une pomme empoisonnée rouge. Ou dans Le Petit Chaperon Rouge, on a une petite fille vêtue de rouge qui porte un petit pot de beurre blanc à une grand-mère ou à un loup noir. On a cette triade de couleurs dans les contes et dans les fables qui est omniprésente.
Revenons au corbeau. À l'époque moderne, on tue énormément de corbeaux pour lutter contre le pillage des graines. Souvenons-nous par exemple qu'en anglais, un épouvantail, ça s'appelle un scarecrow, c'est-à-dire un objet destiné littéralement à faire peur aux corbeaux.
Aux corbeaux et aux corvidés, puisque crow en anglais désigne soit l'ensemble des corvidés, soit la corneille proprement dite, le corbeau, le grand corbeau étant raven, rabe en allemand. Donc dans la vie des campagnes de l'Europe moderne et de l'Europe contemporaine, on tue énormément de corbeaux, à la fois avec l'idée qu'ils nuisent aux récoltes, qu'ils mangent les grains, qu'il trouble la vie des campagnes, et puis l'idée qu'ils portent malheur avec leur plumage noir, qu'ils sont voleurs, charognards, ennemis non seulement de l'Église, mais aussi des paysans. Et on en tue un très grand nombre jusque dans les années 50. Moi, j'ai vu dans les campagnes de l'ouest de la France des enfants ou des adolescents recevant leur première carabine à plomb s'amuser à tirer sur des corbeaux pour les blesser ou pour les tuer. C'est un comportement lamentable, mais qui a été encouragé pendant des siècles.
Michel Pastoureau, à l'époque contemporaine, récemment, on redécouvre le caractère extraordinairement intelligent de cet animal.
Oui, on redécouvre quelque chose que l'Antiquité connaissait. Le corbeau est le plus intelligent de tous les oiseaux. Pline le dit déjà, et d'autres auteurs. Mais probablement, peut-on dire aujourd'hui qu'il est aussi le plus intelligent de tous les animaux. Toutes les expériences récentes sur l'intelligence animale montrent qu'il est au niveau des grands singes, en quelque sorte. Par exemple, une porte est fermée à clé, il y a de la nourriture derrière la porte. Eh bien, non pas le corbeau, mais les corbeaux, parce qu'ils se mettent à plusieurs, ont cherché un bout de fil de fer qu'ils ont trouvé ici ou là, essayent de crocheter la serrure, n'y arrivent pas, réessayent, regardent comment est le fil de fer, le tordent avec leur bec, recommencent, et puis recommencent encore, réfléchissent ensemble et recommencent, et finissent par ouvrir la serrure et aller chercher la nourriture. Donc ils sont capables d'observer et de déduire et de fabriquer. Également, j'ai vu des émissions de la BBC montrant que les corbeaux pratiquent ce qu'on pourrait appeler l'humour. Ils se moquent des autres oiseaux. D'ailleurs, il faut souligner, on ne l'a pas dit, mais tous les oiseaux ont peur des corbeaux. Certains rapaces ont peur des corbeaux. Ils pratiquent l'humour en ce sens qu'ils cachent de la nourriture, ou plutôt ils font semblant de cacher de la nourriture, puis ils vont se mettre à l'abri, et ils observent les autres oiseaux qui viennent chercher la nourriture et qui ne trouvent rien, et on a l'impression qu'ils se moquent d'eux, qu'ils rient ensemble de la blague qu'ils ont faite. Alors évidemment, cela a ses limites, c'est-à-dire que c'est l'homme qui organise des expériences, c'est l'homme qui observe comment se comportent les corbeaux, et c'est l'homme qui en tire les conclusions. Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur le comportement animal? On peut se poser la question. Mais enfin, il semble bien quand même que, au sein du monde animal, cet oiseau est supérieurement intelligent.
Comme bien souvent dans le monde, il y avait une fois deux corbeaux. L'un avait une queue très longue et l'autre avait le cul courteau. Si celui qui avait la queue courte l'avait eu longue cependant, mon histoire eût été plus longue, j'aurais parlé longuement.
On se quitte au son de la voix de Julos Bocarn qui chantait Les deux corbeaux. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Sur le corbeau, je renvoie nos auditeurs à votre livre sur les bestiaires du Moyen-Âge ainsi qu'à votre ouvrage Noir, histoire d'une couleur, tous deux parus aux éditions du Seuil.
Comme bien souvent dans le monde, il y avait une fois deux corbeaux. L'un avait une queue très longue et l'autre avait le cul courteau. Si celui qui avait la queue courte l'avait eu longue cependant, mon histoire eût été plus longue, j'aurais parlé longuement. Mais comme il avait la queue courte, mon histoire semblablement sera un temps soit peu plus courte, je ne m'étendrai pas longuement.
L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec la vie. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde.
Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif.
Bête comme
ses pieds.
Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds.
Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, cette semaine, nous nous souvenons que les animaux ont aussi leur histoire. Cette histoire, c'est Michel Pastoureau, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, qui nous la raconte en retraçant le parcours à travers les siècles de 8 animaux célèbres. Après avoir fait le portrait d'un volatile, nous évoquons à présent la figure d'un monstre marin. Un monstre réel, bien vivant, mais dont le gigantisme prodigieux ne cessera sans doute jamais de nous émerveiller. À moins que... Notre planète en comptait quelque 230 000 représentants en 1930. Il ne serait plus aujourd'hui que 10 000 à peine sur notre planète et leur nombre dans nos océans ne cesse de décroître. L'homme aura-t-il pour finir raison de ce majestueux habitant des mers? Tout de suite, portrait d'un géant, la baleine.
Au même instant, de l'arrière vint une commotion, une poussée invisible. Tandis que l'avant du bateau semblait heurter un écueil, la voile s'affaissa avec bruit et un jet de vapeur brûlante fusa tout près. Quelque chose comme un tremblement de terre roula et s'écroula au-dessous de nous. L'équipage se sentit à moitié suffoqué. Nous nous trouvions lancés pêle-mêle dans la blanche crème caillée d'Urmou. Rafales, baleines et harpons s'étaient mêlés tous ensemble et la baleine, à peine effleurée par le fer, échappa.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
C'est avec un extrait du roman de Herman Melville, Moby Dick, paru en 1851, que nous ouvrons cette émission, un extrait lu par Michel Bouquet pour une adaptation radiophonique diffusée le 26 décembre 1955. S'il ne fallait citer qu'une œuvre parmi toutes celles qui ont mis en scène la sidération humaine face à la baleine, ce serait celle-là.
Oui, bien sûr, d'autant que Melville a lui-même été à bord d'un navire baleinier pendant quelques années, 5 ou 6 ans si je me souviens bien. Donc il sait de quoi il parle quand il met en scène les aventures de son capitaine à cap qui parcourt les mers du globe à la recherche d'un énorme cachalot qui l'a mutilé à une jambe quelques années plus tôt, et il est obsédé par la lutte contre cet animal qu'il veut tuer. Il entraîne dans la catastrophe tout son équipage. Il ne reste plus que, parmi les survivants, que le narrateur de cette histoire qui est parue d'abord en Angleterre sous le titre The Whale, la baleine, et qui n'a pris le titre de Moby Dick que dans l'édition suivante américaine.
Alors commençons par le commencement et par définir ce dont nous allons parler. On l'a dit à l'instant, hein, la baleine. Moby Dick n'est pas en fait une baleine, c'est un cachalot. Définissons donc de quoi on parle s'agissant des baleines. La définition elle-même pose des questions historiques, puisque pendant longtemps, la baleine est considérée comme un poisson, non comme un mammifère.
Oui, la notion de mammifère n'émerge vraiment qu'au XVIIIe siècle, donc on ne parle jamais de mammifères marins. On parle de poissons de très grande taille, d'animaux aquatiques monstrueux, et on a du mal à établir une typologie de ces animaux que le latin désigne par un seul mot, c'est tous. Parfois on isole au sein de ce monde des cétacés la baleine, baleina, et que l'on distingue du cachalot, fusétaire, celui qui souffle. De fait, aujourd'hui, la zoologie distingue nettement la baleine du cachalot, en ce sens que le cachalot a une énorme tête, une très grande bouche et des dents, alors que la baleine a une bouche plus petite et n'a pas de dents, mais des lames cartilagineuses, des fanons, qui ne lui permettent pas d'avaler de gros animaux. Donc ce sont deux espèces assez différentes, et au sein du monde des baleines, il y a plusieurs variétés, si je puis dire, en taille, en poids, en aspect. La plus grande, c'est la baleine bleue, qui peut atteindre 27-30 mètres de long même, et un poids autour de 160, voire 200-220 tonnes pour les individus records, à distinguer de la baleine franche, qui est un peu plus petite, qu'on trouve dans l'Atlantique, qui ne dépasse guère 100 tonnes, et puis la baleine grise, qui est encore un peu plus petite, autour de 35-40 tonnes. Mais ces trois variétés de baleines sont en effet en voie de disparition, parce que l'on a surexploité la chasse à la baleine, alors que le cachalot, lui, est encore présent en assez grand nombre. Il reste peut-être 10 000, 15 000, 18 000 baleines, alors qu'il reste dans les mers du globe peut-être 1 500 000 ou 2 millions de cachalots. Donc la différence est très grande.
Alors dans l'Antiquité, Aristote est assez clairvoyant sur la nature des baleines. Dans ses écrits sur les animaux, il la classe parmi les cétacés. Que recouvre cette catégorie à l'époque ?
Alors, la notion de cétacé, le mot lui-même n'apparaît qu'assez tard. Je crois qu'il faut attendre la fin du XVIIIe siècle. En 1804, le grand zoologue et homme politique aussi, Lacépède, écrit dans la suite de l'histoire naturelle de Buffon une histoire des cétacés. C'est peut-être le premier livre qui a ce mot dans son titre. Mais Aristote constate que ces animaux allaitent leurs petits. La notion de mammifère n'est pas encore très clair chez lui, mais ce sont des animaux qui ont des mamelles et qui allaitent leurs petits, donc ça les distingue des autres créatures aquatiques. Ce savoir aristotélicien va disparaître à l'époque romaine et surtout au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, la baleine, c'est un énorme poisson. Ça n'est même pas le roi des poissons qui, dans les bestiaires et les encyclopédies du Moyen-Âge, est le dauphin. C'est pour ça que dans les images, dans les miniatures par exemple, le dauphin a très souvent une couronne sur la tête. C'est le roi des poissons. La baleine n'est qu'un poisson, énorme certes, mais un poisson parmi d'autres. Et quand on est historien, évidemment, on ne peut pas projeter sans précaution aucune nos savoirs et nos catégories d'aujourd'hui dans le passé. Il faut étudier le discours du passé sur les animaux par rapport aux catégories et aux savoirs de ce passé. Sinon, on dit d'énormes bêtises.
Alors, la baleine, sans doute en raison de son gigantisme, est depuis des temps très anciens l'objet de bien des légendes. C'est de ces légendes dont nous allons parler aujourd'hui. Impossible de ne pas citer ici celle du livre de Jonas.
Oui, c'est un livre biblique qui est un peu à part. C'est presque un conte merveilleux. C'est un livre court dans l'Ancien Testament qui raconte comment le prophète Jonas a reçu de Dieu pour mission d'aller à Nineveh Ninive. Ninive, c'est la capitale des Assyriens, c'est Mossoul actuellement, pour les avertir que s'ils ne réforment pas leur comportement, Dieu va les punir. Alors évidemment, c'est une mission difficile. Et alors, Jonas cherche à y échapper. Il s'embarque à bord d'un navire, pensant que s'il quitte Israël, il ne sera plus sous la domination de son Dieu. Et puis le navire dans lequel il a embarqué est pris par une tempête. Les marins comprennent que l'un d'entre eux attire les catastrophes sur le navire. On repère Jonas. Tout le monde prie son Dieu et lui ne prie personne puisqu'il est fâché avec son Dieu.
Donc les Jonas marins... est la figure d'un désobéisseur. Hein, si
c'est
je
un désobéisseur, un boudeur, un prophète grognon, mais en même temps très humain. Les marins, donc, pour s'en débarrasser, le jettent par-dessus bord et Jonas est avalé par un énorme poisson que l'on, la tradition, a assimilé à une baleine. Là, il séjourne pendant 3 jours dans le ventre de l'animal, nombre symbolique. Il se repent, il prie Dieu, celui-ci a pitié et ordonne au monstre de rejeter le prophète sur le rivage. Et une fois sur le rivage, Jonas... vient à récipiscence et décide d'accomplir sa mission et il part à Ninive avertir les Ninivites que Dieu va les punir. Et puis les Ninivites se réforment un peu, expient leurs fautes et Dieu leur pardonne. Et alors Jonas est de nouveau furieux contre Dieu qui a pardonné si facilement. Il va bouder en dehors de la ville sous un arbre qu'on assimile à un ricin. Et Dieu, pour lui donner une leçon, comme tous les prophètes bibliques, Jonas est chauve, donc il se protège avec les feuilles de l'arbre des rayons du soleil. Dieu fait en sorte que l'arbre perde ses feuilles et Jonas est brûlé par les rayons du soleil. Et l'histoire finit un peu énigmatiquement comme cela, alors que pour un lecteur moderne, Jonas attire plutôt la sympathie. Il est profondément humain, faible, coléreux. Mais pour comme exemple biblique, dans l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est un homme rebelle qui désobéit à son Dieu.
Alors, il existe une autre légende, Michel Pastoureau, peut-être moins connue que celle de Jonas et la baleine. Je veux parler de la légende de Saint Brendan, un abbé irlandais qui, dans un voyage sur l'océan Atlantique au 1er siècle de notre ère, voyage avec plusieurs moines et accoste sur ce qu'il croit être une île qui se révèle en fait être une baleine au repos.
Voilà, la plus ancienne version en latin date du Xe siècle, mais l'histoire se passe plutôt au 5e, 6e ou 7e siècle, selon les traditions. C'est un abbé qui part avec 12 moines pour un long voyage maritime. Il leur arrive des tas d'aventures, il visite le purgatoire, l'enfer, où Brendan rencontre Judas qui souffre de peines terribles. Brendan obtient d'ailleurs de Dieu qu'il adoucisse les peines de Judas. Ensuite, ils arrivent au paradis, qui est une sorte d'île merveilleuse faite de montagnes entièrement fabriquées dans des pierres précieuses. Et puis surtout, c'est l'épisode le plus célèbre, ils accostent sur le dos d'une baleine qui se chauffe au soleil à la surface de la mer. Ils prennent ce dos de baleine pour une île. Ils s'y installent, ils allument des feux, ils préparent un repas, ils disent la messe, ils décident d'y rester et font pousser quelques plantes. Et puis la baleine se réveille naturellement et d'un coup dorsal les jette à la mer. Certains arrivent à regagner leur embarcation et à finir le voyage. Au fil du temps, la baleine devient de plus en plus négative. Et quand on prend les bestiaires des 12e et 13e siècles, puis les encyclopédies qui leur font suite, c'est une créature du diable, c'est un monstre. La mer, d'ailleurs, est peuplée de monstres et de créatures épouvantables. On a très peur de la mer au Moyen-Âge. Mourir noyé en mer, d'ailleurs, est une mort épouvantable parce que on n'a pas le temps de se confesser ni de recevoir les derniers sacrements. Donc les âmes des noyés n'ont pas de sépulture, elles errent sur les mers, tourmentant les vivants pour leur demander une sépulture. C'est toute légende autour de ces navires fantômes et ces âmes des marins. Il y en a dans toutes les régions du globe en bord de mer. Donc on a très très peur des voyages maritimes au Moyen-Âge. Joinville, qui a accompagné Saint-Louis, au cours de sa première croisade, par voie de mer, parti d'Aigues Mortes, était terrifié, hein, nous sommes en 1248, terrifié à l'idée de monter sur un navire et peur de mourir en mer, qui est la pire de toutes les morts. D'ailleurs, au Moyen-Âge, les marins passent pour des gens dont il faut se méfier. Ils ont tendance à rançonner les pèlerins et les voyageurs, et même à les jeter par-dessus bord. Même les marins d'eau douce ont cette mauvaise réputation. Et puis il y a l'idée que dans la mer vivent des créatures épouvantables et redoutables. C'est pour ça d'ailleurs que, en matière de nourriture, on préfère les poissons d'eau douce aux poissons de mer, qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont plus valorisés. Les carpes, les brochets, les anguilles sont sur la table des rois et des seigneurs, alors que les poissons de mer, et notamment le hareng, hein, des piliers de l'alimentation carnée au Moyen-Âge, c'est pour la table des petites gens.
Oui, au Moyen-Âge aussi, on ne sait pas hein, ce qu'il y a au fond de la mer. Ça peut expliquer aussi qu'on en ait si peur, y compris de ces poissons.
On a très très peur, oui, de ces animaux marins que l'on connaît très mal. Et c'est le cas de la baleine dont les auteurs parlent alors qu'ils n'en ont jamais vu et que les imagiers représentent sans en avoir jamais vu non plus. Il faudra attendre pour avoir des représentations un peu réalistes, entre guillemets, le XVIe siècle.
Oui, dans les bestiaires du Moyen-Âge, Michel Pastoureau, la baleine est aussi associée au diable, hein, elle est associée à la figure du Léviathan dans la Bible.
Oui, on lui prête, parce qu'on confond baleine et cachalot, une gueule monstrueuse avec d'énormes dents. Dans certaines images, on montre des canines surdéveloppées qui ressemblent à celles d'un sanglier ou aux défenses d'un éléphant. On lui donne un aspect pisciforme, mais une taille colossale. Donc la baleine met en scène le monde de la mer, le monde des marins et des aventures maritimes, mais aussi le monde de l'énormité, du colossal, du monstrueux, et ça dans la longue durée, pas seulement au Moyen-Âge.
Michel Pastoureau, il nous faut évoquer l'une des dimensions les plus fondamentales de l'histoire de la baleine, sa chasse. Alors pour commencer cette évocation, une question tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de chasse et non pas de pêche ?
Probablement parce que on utilise des moyens spécifiques pour capturer cet animal, et notamment on n'utilise pas, comme pour la pêche, une ligne au bout d'une canne avec un hameçon ou des choses équivalentes, mais flèche, lance, harpon, donc un objet qu'on lance au bout duquel on a attaché une corde ou un filin. Et le but, évidemment, c'est de s'emparer des nombreux produits que peut procurer une baleine. Alors pendant longtemps, on s'est contenté des baleines échouées sur les rivages. Puis on a, notamment en Norvège, dès le haut Moyen-Âge, appris à pousser les baleines vers les rivages pour qu'elles s'échouent de manière un peu artificielle en quelque sorte. Puis ensuite, on a conduit de véritables guerres faites à la baleine, qu'on appelle chasse, pour s'emparer de toutes sortes de produits. D'abord la graisse, qui sert à beaucoup de choses, la graisse et l'huile de baleine pour s'éclairer notamment, c'est un produit absolument indispensable. Et puis on en tire aussi de la chair, de la viande. La langue est un mets particulièrement recherché sur les côtes du nord de la France. Les abbayes réclament les langues de baleine qui ont été récupérées, et c'est le mets de choix offert à l'abbé lui-même. Avec la peau de baleine aussi, on fait des objets en cuir, on fabrique de la colle. Avec ses dents et des dents des cachalots et les fanons des baleines, on se sert de cette matière pour faire des objets de petite taille en général, de même que pour les os, dans lesquels on taille des ustensiles de toutes sortes. Les tendons eux-mêmes peuvent faire des cordages, les viscères, des engrais, etc. Bref, on retire toutes sortes de richesses de cet animal, d'où le développement de la chasse à partir du XIIIe siècle. Et après les Norvégiens, ce sont les Basques qui se spécialisent dans la chasse à la baleine, parce que les baleines de l'Atlantique Nord pour se reproduire, viennent dans des eaux plus chaudes, et notamment celles du golfe de Gascogne. Alors les Basques se spécialisent dans ce type de chasse.
Ce sont les premières chasses véritables. On n'est plus dans la technique de l'échouage.
Non, on est dans la technique où on est embarqué sur des canots assez frêles, à 6, 8, 10, 12 hommes. L'un tient le gouvernail, les autres rament, et en tête il y a le harponneur qui lance à la main un harpon, parfois plusieurs harpons. Quand l'arme est entrée dans le dos de la baleine, celle-ci gigote, on attend qu'elle s'épuise avant de la tirer vers le rivage. Et c'est une spécialité vraiment des populations qu'on appelle basques aujourd'hui. Et les villes de bord de mer de cette région, aussi bien côté français que côté espagnol, ont parfois représenté sur leur sceau une image de chasse à la baleine. Preuve que c'est une des activités principales de cette zone géographique. Malheureusement, ça ne va pas durer parce que à la fin du 15e, au début du 16e siècle, on a peut-être surexploité et les baleines ne viennent plus se reproduire dans le golfe de Gascogne. Donc la chasse se déplace vers d'autres régions de l'Atlantique et notamment vers l'Islande et vers le Groenland. Alors à un moment, les marins basques louent leur service sur des navires soit anglais, soit néerlandais. Ce sont eux qui ont pris le relais pour cette chasse à la baleine, qui peut aussi conduire les chasseurs vers le Grand Nord, vers les îles du Spitzberg, au l'extrême nord de la Norvège, dans l'océan glacial. Puis au XVIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la chasse des place vers l'Atlantique du Nord-Ouest, et ce sont les côtes américaines qui commencent à se spécialiser dans la chasse à la baleine.
Les colonies anglaises, des côtes américaines à l'époque.
Voilà, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, à partir des années 1660, 70, 80. Certaines villes sont même spécialisées dans la chasse à la baleine, notamment la fameuse ville de Nantucket. Et cette chasse va durer au fond de ce milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à l'époque de Melville et Moby Dick.
Oui, c'est justement dans ce contexte que se situe le roman de Melville.
Voilà, il est en fin de parcours, si je puis dire, puisque au moment où le roman paraît, la chasse est un peu en régression, notamment parce que on a trouvé d'autres sources d'énergie pour s'éclairer. On a découvert le pétrole, et puis la ruée vers l'or de Californie fait que beaucoup de personnes modestes qui servaient à bord des navires ont trouvé un moyen de gagner de l'argent plus rapidement en allant chercher de l'or vers San Francisco et sa région.
Alors comment passe-t-on à l'exploitation, si je puis dire, industrielle de la baleine ? Il y a aussi des évolutions techniques dans la chasse.
Oui, il y a d'abord le harponnage qui change. Après le harpon lancé à la main, on invente vers les années 1860 le harpon lancé avec un canon.
C'est le harpon à explosion.
Alors après, il y aura le harpon à explosion.
Ah, c'est pas la même chose.
C'est en plusieurs étapes. Le harpon à explosion, c'est le harpon qui, une fois entré dans le dos de l'animal, explose et non seulement s'ancre dans les chairs, mais détruit tout ce qu'il y a autour et affaiblit plus rapidement l'animal. Puis après, il y aura le harpon lancé de manière électrique, alors c'est encore plus puissant et encore plus précis. Les navires eux-mêmes se transforment, on a des navires baleiniers qui deviennent de véritables usines flottantes, en ce sens que c'est à bord même du navire qu'on tire les produits de la baleine elle-même. On ne la hisse pas sur le pont, mais on l'accroche sur les flancs du navire et on traite presque industriellement la graisse, l'huile, les chairs, etc.
Elle est dépecée à l'endroit même où elle est chassée.
En mer, en quelque sorte.
En haute mer, oui.
Voilà. Et tout cela fait que chasser devient plus facile et on tue un plus grand nombre de baleines. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vers 1850, à l'époque du roman Moby Dick, on tue à l'échelle de la planète environ 1000 baleines par an. Trois générations plus tard, vers 1930, on est passé à 50 000. Ça devient absolument astronomique. Et on prend conscience de cette surexploitation au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait que l'on crée une commission baleinière internationale qui existe encore, qui prend des décisions, des moratoires, des quotas, des interdictions. Tout cela est répété, puis répété, puis répété, ça prouve que ces moratoires et ces quotas ne sont pas respectés. Il y a des pays plus rebelles que d'autres.
Quels sont-ils alors, ces pays qui ne respectent pas ces règles ?
Alors, les pays les plus rebelles sont... je ne veux pas faire le dénonciateur, mais la Russie...
C'est moi qui vous le demande.
Merci. La Russie, le Japon, la Norvège et l'Islande, soit par tradition, soit par nécessité, chassent la baleine et ont du mal à réduire la quantité d'animaux tués, voire à obéir aux moratoires demandés, alors que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et même la Norvège ont plutôt obéi, en quelque sorte. Donc il y a encore des résistances. Ça n'est pas propre, d'ailleurs, à la Commission baleinière internationale. On peut observer que dans de très nombreux domaines, les décisions internationales ne sont, pour ainsi dire, jamais respectées.
Certes.
Par l'ensemble de la planète.
Et aujourd'hui, on pense que la baleine est encore une espèce réellement menacée, qu'elle peut disparaître dans les années à venir ?
Oui, non pas toutes les espèces de baleines, mais certaines d'entre elles, notamment la grande baleine bleue, certaines variétés de baleines grises. Ce n'est pas le cas du cachalot, ce n'est pas le cas non plus du petit rorqual, cousin de la baleine et peut-être le gros mammifère marin de ce type le plus abondant aujourd'hui dans les mers du globe, mais le grand rorqual lui-même est menacé. Donc il y a vraiment un animal qui est en voie de disparition.
À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc ? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa ? Va la pêper, va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Le poème de Jacques Prévert, La pêche à la baleine, chanté par Germaine Montero sur une musique de Joseph Cosma. Merci beaucoup Michel Pastoureau, je renvoie nos auditeurs à vos deux livres, Les bestiaires du Moyen-Âge, Au Seuil, et Les animaux célèbres, parus chez Bonneton.
En colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole.
Les animaux ont aussi leur histoire, une émission réalisée par Anne Pérez, avec à la prise de son Philippe Palares.
Et pourquoi donc que j'y ai pas été ? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 26 juillet et 2 août 2015. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, où vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes de cette série.
Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable, dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger.